Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin.
Du point de vue historiographique, l'étude des nomades Amari a commencé par différents articles de Georges Dessin, le plus célèbre étant celui des mélanges du Sceau. Elle a pris un tournant décisif avec la thèse de son élève Jean-Robert Cuper sur les nomades en Mésopotamie au temps des rois de Marie, publiée en 1957. Par la suite, il y eut toute une série d'études sur cette question essentielle, si richement documentée par les archives du Palais Royal de Marie. L'historiographie jusqu'en 1991 en a été faite par Moshe Anbar dans son livre sur les tribus amorites de Marie. En 1986, Jean-Marie Durand et moi-même avons écrit un article qui a eu un fort retentissement. Nous y montrions que Zimri-Lim appartenait à la branche des Simalites et nous invitions à mieux distinguer deux réalités trop souvent confondues, le genre de vie, sédentaire ou nomade, avec toutes sortes de situations intermédiaires, d'une part, et l'appartenance tribale qui structurait les sociétés de l'époque beaucoup plus qu'on ne l'avait imaginé jusqu'alors. Une autre date à retenir est juillet 2000. Au terme de sa première année d'enseignement au Collège de France, Jean-Marie Durand y organisait la 46e rencontre assyriologique internationale sur le thème « Nomades et sédentaires dans le Proche-Orient ancien ». Et ses cours, dans les années qui suivirent, approfondirent cette thématique jusqu'en 2006-2007, après quoi il revint à l'étude de la divination et du prophétisme. Il a écrit une synthèse en 2008, et ces dernières années ont surtout été marquées par la publication de 2019 à 2024 de ces trois volumes, ARM 33, 34 et 35, ce dernier étant paru il y a 6 mois. Et je regrette un peu que le titre de ces trois livres ne mette pas mieux en valeur l'un de leurs apports essentiels, les très nombreuses lettres écrites par des chefs nomades ou les concernant, et nous allons aujourd'hui puiser abondamment dans ce trésor. Je rappellerai rapidement la grande division tribale. On avait d'un côté les fils de la gauche, excusez-moi, c'est votre droite, mais c'est ma gauche, les fils de la gauche que l'on désigne en français comme Simalites, ou parfois Ben Simalites, et de l'autre, les fils de la droite, c'est-à-dire les Yaminites, on dit parfois Benyaminites. Les Yaminites étaient simplement divisés en 5 tribus, on utilise le mot limoum pour les décrire, Amnanou, Uprapou, Yarehu, Yahruru et Rabbu. Chacune de ces 5 tribus yaminites avait à sa tête un roi. L'organisation des Simalites est longtemps restée mal connue. Ils étaient répartis en 2 grands groupes, les Acharougayou et les Yabassou, chacun comportant un bon nombre de clans. Les Simalites reconnaissaient tous l'autorité de Zimri-Lim, même lorsqu'ils paissaient dans les territoires d'autres royaumes. Un phénomène a pendant très longtemps gêné la recherche, l'emploi ambigu du terme « Hana », que l'on trouve également, mais rarement, sous la forme akkadisée « Hanoum ». On a longtemps cru qu'il s'agissait d'une ethnie qui aurait tiré son nom du territoire autour de Terka, mais on sait maintenant que c'est faux, même si on continue à trouver cela dans la littérature. En fait, ce mot avait un double emploi, un peu comme « américain ». Au sens strict, ce terme désigne tout habitant des Amériques, mais on l'utilise souvent dans la pratique pour parler des citoyens des États-Unis d'Amérique. Et bien de la même façon, « Hana » étymologiquement désigne quelqu'un qui habite sous la tente, donc un nomade. On le traduit conventionnellement par « bédouin », ce que Jean-Marie Durand a ainsi légitimé, non pas dans le sens technique arabe de « nomade possédant des chameaux », mais dans son sens étymologique d'homme de la steppe. Fin de citation. Mais cette désignation, « hana », est souvent utilisée dans les sources pour désigner de façon spécifique un membre des Simalites, et on verra tout à l'heure un exemple de ce phénomène. Il faut ensuite rappeler la réalité du nomadisme à cette époque. Il n'existait pas encore, dans la région qui nous intéresse, de tribus chamelières, mais seulement des éleveurs de moutons. Leur parcours était limité par la nécessité d'abreuver les bêtes quotidiennement et de disposer de pâturages. Les territoires de parcours sont désignés par le terme de nigroum, et Jean-Marie Durand a cité une lettre du chef nomade Ibal El Azimrilim qui est tout à fait éclairante. Le contexte est le siège de la ville de Razama par Atamroum. D'autre part, au sujet du fait qu'Atamroum t'ait écrit à propos du pays d'Idamaratz, déguerpi de ce pays-ci, réponds-lui ceci. Et donc ceci, c'est la réponse que le chef nomade Ibal El dicte en quelque sorte à Zimrilim. De même que le pays du Yamhad, celui de Katna et celui d'Amouroum sont le nigroum des Yaminites, et que dans ce pays les Yaminites sont rassasiés de grains et que pèsent leurs troupeaux, eh bien depuis l'aube des temps, le nigroum des Bédouins, c'est l'Idamaratz. Et donc, vous voyez ici que l'opposition entre Yaminite et Hana montre que ce dernier terme désigne de façon précise les Simalites à la tête desquels se trouvait Zimrilim. Et ce texte a le grand intérêt de définir les Simalites comme occupant une zone située au nord-est, à savoir le triangle du Rabour, par rapport aux Yaminites qui occupent le sud-ouest de la région d'Alep jusqu'au Levant sud. Et pour la première fois, l'opposition nord-sud qui est suggérée par l'étymologie entre les fils de la gauche qui sont les gens du nord et les fils de la droite qui sont les gens du sud, cette étymologie est vérifiée. Et donc, j'ai choisi aujourd'hui de dresser le portrait de deux hommes qui représentent chacun un des deux ensembles, un chef simalite Ashmat et un roi yaminite Hami Ishtamar. Leur période d'activité ne se recouvre pas. Le premier est attesté pendant les cinq premières années de Zimrilim, tandis que le second l'est pendant la deuxième moitié du règne. Le premier personnage qui retiendra notre attention s'appelait donc Ashmad ou Ashmat, selon l'étymologie que l'on préfère de son nom. Jean-Marie Durand a suggéré un rapprochement avec le mot arabe qui décrit un homme aux cheveux poivre et sel. Ashmat est l'expéditeur de 32 lettres, et cette correspondance, dont on ne connaissait auparavant que quatre lettres et quelques extraits, a été publiée pour l'essentiel par Jean-Marie Durand en 2023 dans le chapitre 9 de ARM 34. Je voudrais commencer par un rappel sur la fonction de merhum qu'Ashmat occupa. Le mot vient de la même racine que le verbe réum, paître, et donc on le traduit par chef de pâture. Il faut comprendre que la population qui reconnaissait l'autorité de Zimrilim était répartie en deux catégories. D'un côté, des sédentaires qui habitaient dans des localités regroupées en provinces sous l'autorité de gouverneur Chapitoum, nous l'avons vu, et d'autre part, des nomades qui se déplaçaient selon les saisons à l'intérieur du royaume de Marie ou en dehors. Il semble qu'il y avait deux merhum simultanément, l'un étant à la tête des Acharougayou et l'autre commandant au Yabassou. L'identité des merhum se repère grâce à la formule par laquelle ils terminent très souvent leurs lettres, comme celle-ci, le troupeau Nawoum, je reviendrai sur ce terme, et les Bédouins, serviteurs de Monseigneur, vont bien. Une lettre d'Ashmat, et dans une autre, on voit une variante, le troupeau de Monseigneur et les Bédouins simalites vont bien. Et vous voyez que dans la deuxième formule, le terme Hana est précisé par le nom de la tribu à laquelle appartiennent les Bédouins, à la tête desquels se trouve Ashmat, mais il ne donne jamais le nom de leur clan. Et pourtant, Ashmat était manifestement le merhum des Acharougayou. Et à la mort de Bannoum, dans la première année, du règne de Zimrilim, Ashmat fut reconnu comme le principal chef des Simalites Acharougayou et il exerça sa fonction au moins pendant 4 années. Et une lettre montre qu'il eut à régler la succession de Bannoum qui l'avait précédé. Dis à mon seigneur, ainsi parle Ashmat, ton serviteur. La maison de Bannoum de Diminatoum, je l'avais donnée à Habdan, son frère aîné. Des gens de Ka cultivent la totalité du champ de Diminatoum, alors que Habdan habite la maison elle-même. Du fait qu'ils cultivent le champ, eh bien, ils se sont mis à ennuyer Habdan pour la maison, disant « Sors de la maison ». Maintenant, mon seigneur doit faire porter une tablette au roi de Ka pour que les gens de Ka déguerpissent de Diminatoum. Ou bien un fermier de monseigneur doit être installé à Diminatoum, ou bien monseigneur doit donner la propriété à Habdan et au fils de Bannoum. Monseigneur doit faire porter rapidement au roi de Ka une tablette sur cette maison. Et donc, on voit comment la présence des nomades relevant du roi de Marie, mais parfois installés dans des terres qui ne dépendent pas directement de lui, posait problème. Le domaine de Bannoum était situé à Diminatoum, une localité qu'on ne connaît pas par ailleurs, mais qu'on voit ici décrite comme faisant partie du royaume de Ka, à proximité de l'actuelle ville de Hasaké. Le frère et les enfants de Bannoum en ont hérité, mais les cultivateurs locaux ne reconnaissent pas le nouveau propriétaire, et donc Ashmat demande à Zimrilim d'intervenir auprès de son vassal. On voit également Ashmat intercéder auprès de Zimrilim pour des gens placés sous son autorité. « Dis à mon seigneur, ainsi parle Ashmat, ton serviteur, Memioum, le bédouin, homme de Katounan, a été introduit dans l'ergastule. Mon seigneur lui avait imposé une amende de 100 moutons. Là-dessus, on a reçu à Marie, de lui, X, le chiffre est cassé, moutons et un bœuf. » Le reste, soit 50 moutons, représente l'arriéré. Si monseigneur est d'accord, il faut que Akinurubam, qui était alors le gouverneur de Katounan, assure sa garantie et qu'il donne les 50 moutons lorsque monseigneur viendra à Katounan. Il ne faut pas que ce bédouin meure dans l'ergastule. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais l'individu en question avait été frappé d'une amende importante, 100 moutons. Il vint à Marie pour payer ce qu'il pouvait, mais l'importance du reliquat était telle qu'il fut placé dans l'ergastule. Nous avons déjà vu de quoi il s'agissait. Et l'ayant appris, Ashmat suggère que le gouverneur de Katounan se porte garant pour l'individu afin qu'il soit libéré et le reliquat sera versé au roi lorsqu'il passera par Katounan. Et un dernier exemple, on voit Ashmat annoncer l'envoi au roi de moutons destinés à être engraissés. Autre affaire, au sujet des ovins à propos desquels Monseigneur m'a écrit en ces termes « Je ne dispose pas de moutons que je puisse engraisser », voilà que j'envoie chez Monseigneur 117 ovins mâles, une brebis, 7 moutons de la race à grosse queue, une brebis de la race à grosse queue, 2 moutons passiloum et 21 boucs. Et on a au total une vingtaine de lettres d'Ashmat qui portent directement sur ses activités de chef de pâture. Elles sont intéressantes parce qu'elles dénotent une attention très précise à l'environnement, comme le montre cette première citation. Autre chose, en ce qui concerne la venue de Monseigneur à Katounan, la première pluie va tomber. Et lorsque bovins et ânes auront de la pâture pour se rassasier, c'est moi qui enverrai un messager à Monseigneur pour qu'il remonte le rabour vers Katounan. Si les bovins et les ânes des Bédouins ont quelque pâture pour se rassasier, c'est là qu'ils iront. Et une autre lettre, plus développée, semble avoir été écrite dans le même contexte. Avant mon départ, j'ai dit à Monseigneur « Il faut que Monseigneur vienne à Katounan et qu'il recense les Bédouins. Ainsi, Monseigneur prendra en main la totalité de sa troupe. » Et il m'a répondu qu'il était d'accord. « Je suis arrivé ici, mais il n'y avait pas de pâturage. Comme à la moisson, les vents tournants se trouvent s'être levés. Il y a eu une première neige. La pâture ne s'est pas redressée jusque-là. » On a ensuite un passage lacunaire. Et ça se termine par « Le groupe transhumant, Naoum, n'a pas quitté l'intérieur du pays jusqu'à présent. Si la toute première neige arrive, il faut que Monseigneur arrive à Katounan pour recenser les Bédouins et prendre la tête de la totalité de l'armée et nommer un général. La neige a partout détruit la pâture. » Alors, vous remarquez la fin de cette lettre qui complète ce que nous avons vu la semaine dernière et montre bien le système de nomination des généraux. Et on a une autre lettre sur le même sujet, ARM 34-168, qui emploie cette fois le pluriel, nommé des généraux. On voit que le roi fait son choix une fois l'armée rassemblée, quand on sait combien il y a d'hommes à encadrer, et donc à ce moment-là, on nomme un ou plusieurs généraux, et ce ne sont pas des professionnels comme nous l'avons vu. Il s'agissait ici de préparer la campagne qui avait pour but de déloger les Eshnounéens de la ville de Shubat Enlil où ils s'étaient installés. Et je retiendrai ici surtout les allusions à la neige et au problème des pâturages disparus du fait de la neige, mais qui réapparaîtront dès la première pluie. Et on a certaines lettres qui sont tout à fait éloquentes. Au campement, les Bédouins, eux tous, avaient fait le rassemblement. Et comme la pluie s'était alors mise à tomber, nous avons pleuré de joie à l'adresse du dieu de l'orage, Adou. Alors nous avons prié pour le salut de notre Seigneur. Les lettres d'Ashmat mentionnent à plusieurs reprises cet endroit appelé Mahanoum. L'étymologie est la même que celle de Hanoum et la traduction par campement a été proposée par Jean-Marie Durand qui a écrit à ce sujet « Une structure comme celle de Mahanoum devait être essentiellement mobile à l'image de ce que l'on peut se faire du Mahané hébreu. Il devait être installé pour des périodes plus ou moins longues en fonction des lieux et des temps de pâture des troupeaux. Cela explique que l'emplacement de ce Mahanoum semble varier. À faire croire qu'il y en avait plusieurs, ce qui est bien le cas à condition de ne pas penser que ces structures coexistaient de façon pérenne. Le Mahanoum représentait donc une très importante structure de la vie des Bédouins Hanou, en l'espèce surtout des Mar, Simal et Yabassa, pour ce qui concerne le règne de Zimrilim, tant d'un point de vue social qu'économique ou religieux. Il faut se l'imaginer comme le centre mobile de la communauté bédouine du Nord. Et on sait par ailleurs que le nom de l'année 10 de Zimrilim a été ainsi formulé, année où Zimrilim a offert un grand trône, au dieu Adou de Mahanoum, ou bien, si on suit Jean-Marie Durand, au dieu Adou du Mahanoum, au dieu Adou du campement. Et si Mahanoum n'était pas un toponyme, mais un campement mobile, il faut donc supposer que le trône et la statue du dieu étaient transportés à chaque déplacement. Mais il y a une autre lettre d'Ashmat qui est un peu curieuse. Il écrit ceci, « Adou du campement m'a demandé de résider 7 jours dans les anneaux. Je vais achever le culte d'Adou et j'irai à Der, Gashum et Zanassou. » Qu'est-ce que c'est que ces anneaux ? On peut rapprocher ce passage d'une lettre de Banoum qui parle d'un rituel analogue, mais qui cette fois concerne Zimrilim et qui devait avoir lieu dans le temple de Dagan de Terka. Et donc Banoum écrit à Zimrilim « Lorsque tu t'es proposé de partir en expédition et que tu as habité les anneaux dans le temple de Dagan pendant 7 jours, moi, tu m'avais laissé à Marie avec les instructions suivantes, lorsque je quitterai les anneaux, toi, rejoins-moi à Terka. » Donc, avec cette deuxième lettre, il est question du temple de Dagan de Terka, qui est construit en dur, et à cause de cela, Daniel Schwemer a considéré que Mahanoum était un lieu fixe avec un temple voué au dieu de l'orage, et le culte de Adou de Mahanoum a survécu au-delà de l'époque de Zimrilim, comme l'a étudié Daisuke Shibata, mais je ne peux pas aujourd'hui rentrer dans les détails, je voulais simplement mentionner les différences d'interprétation de ces données. Ashmat, comme le firent d'ailleurs ses successeurs, transmettait au roi de Marie les faits divers marquants. L'une des informations les plus célèbres concerne la conclusion d'un accord entre les rois du Zalmakoum et les Yaménites, et le fait que cette alliance ait été conclue dans le temple de Sinaharan avait attiré l'attention de Georges Dessin dès 1939, moment où il avait cité un extrait du texte qu'on trouve désormais dans ARM 26 et réédité dans ARM 34. dit à Ascoudoum, ainsi parle Ashmat, ton ami. Donc on retrouve ici le devin Ascoudoum qu'on a étudié au début de l'année. J'ai envoyé des gens à Zalpar et à Runa. Ils se sont renseignés, et la nouvelle que j'avais déjà écrite à mon seigneur s'est confirmée. Yagihadou, Rardoum et Samsiadou viennent d'entrer à Ahuna. Il s'agit de trois des rois yaminites de cette époque. Kilamaratz et Atamriel, ou Prapéen les précédents, sont entrés à Toutoul. Asditakim et les autres rois du Zalmakoum, les chers Sugagoum et les anciens des yaminites ont tué l'Anon dans le temple de Sin de Haran. Donc, on a ici une coalition qui regrouperait trois rois yaminites en guerre contre Zimrilim, et arrivés dans la vallée du Balir, à Ahuna, ils envoyèrent au roi du Zalmakoum leurs représentants pour conclure une alliance en bonne et due forme, ce rituel ayant eu lieu dans le temple de Sin à Haran. Nous avons vu cela ici il y a quelques années, et vous pouvez consulter mon livre « Tué de mon sang » pour vous rafraîchir éventuellement la mémoire. Parmi les informations qui étaient transmises, certaines avaient trait à la surveillance de la steppe, car les marchands et les nomades avaient une caractéristique en commun, c'était des voyageurs qui ignoraient les frontières. Et on a une lettre d'un autre Merhoum Ibal El que j'ai publiée il y a bien longtemps et qui commence de façon singulière. « Monseigneur sait que je commande aux Bédouins et que, tout comme un marchand qui traverse territoire en guerre et territoire en paix, les Bédouins, lors de la récolte de la taxe chez Patoum, circulent entre territoire en guerre et territoire en paix et apprennent au cours de leur déplacement ce dont parle le pays. » Eh bien, c'est dans ce cadre que Ashmat a conçu une certaine méfiance à l'égard de marchands yaminites. Je cite sa lettre, « Des marchands ouprapéens d'Iloum Moulouk faisaient du commerce entre les différents pâturages. Or, il se peut que les ouprapéens les aient expédiés afin d'acquérir le maximum de renseignements. Qui peut savoir ? J'ai saisi ces gens et je les ai remis à Ilouchou Natsir. Alors, il les a consignés à Katounan. Maintenant, monseigneur doit me faire savoir par un messager à leur sujet ce qu'il en est pour que je les laisse aller, si tel est le cas. Sinon, que Monseigneur fasse ce qui lui plaît. » Donc on a des marchands yaminites qui ont remonté le rabour et qui étaient tout simplement soupçonnés d'espionnage. Après s'en être emparés, Ashmat les remit au gouverneur de Katounan, Ilouchou Natsir, et demanda des instructions au roi. Plus d'une fois, nous voyons Ashmat intervenir dans les relations diplomatiques de Zimrilim avec ses voisins. Prenons le cas de Adouna Adou, qui était le roi de Hanzat sur le haut Balir, donc un des rois du Zalmakoum. Eh bien, Ashmat mit Zimrilim en garde contre la tentation de le traiter en inférieur. Adouna Adou m'a fait porter une tablette disant « Pourquoi ton seigneur m'écrit-il en tant que père ?» Donc, en le traitant comme son fils, donc son inférieur. Yatoulim m'a apporté cette tablette. Monseigneur doit interroger Yatoulim. À cause des Yaminites, Monseigneur doit donner satisfaction à Adouna Adou. Ensuite, il y a un passage un peu cassé qui se termine par un discours de cet Adouna Adou. Pourquoi Zimrilim ne s'adresse-t-il pas à moi en tant que frère ? Donc, sur un pied d'égalité. Et Ashmat poursuit, « Maintenant, rends aimable ta façon de dire. Lorsque tu feras porter une tablette à Adouna Adou, écris-lui en tant que frère. » Pour qu'il repousse la proposition d'alliance des Yaminites, Monseigneur doit satisfaire Adouna Adou. Et vous remarquez au passage, dans cette lettre, quelque chose qu'on va retrouver à d'autres moments, les chefs nomades, dans leur courrier à Zimrilim, alternent, le plus souvent ils s'adressent à lui à la troisième personne, en disant Monseigneur, mais de temps en temps, l'emploi de la deuxième personne leur échappe, et on peut du coup penser que ces lettres ont été dictées, parce qu'un bon scribe n'aurait pas fait de tels mélanges. Donc le contexte ici, c'est celui de la montée de la tension entre les Yaminites et Zimrilim, et il fallait à tout prix éviter que Adouna Adou ne prenne le parti des rebelles. Et finalement, le rôle principal d'Ashmat aux yeux de Zimrilim, c'était de lui fournir des troupes. Et au moment où le roi d'Eshnouna, Ibalpiel II, avait envahi la vallée du Tigre et commençait à remonter le Moyen-Euphrate, Ashmat écrivit cette lettre à Zimrilim. « J'ai écouté la tablette que Monseigneur m'a fait porter. Monseigneur m'y envoyait ce message-ci, disant « Rejoins les Bédouins et avec eux un palabre, en sorte qu'ils se mobilisent et qu'au lever de la torche, tous les Bédouins me viennent en renfort comme un seul homme. » Voilà le message que m'a envoyé Monseigneur. On retrouve ici deux thématiques sur lesquelles les données abondent. D'abord, celle de ce que Georges de Saint avait appelé les signaux lumineux, des feux allumés selon un certain code qui servait à organiser des rassemblements ou à donner l'alerte. Et nous avons ce deuxième texte, toujours à propos du fait qu'il y a cette menace des Eshnounéens. Le sujet sur lequel Monseigneur m'a envoyé un message retient toute mon attention. J'ai donc envoyé des messagers à tous les Bédouins. En outre, moi-même, je me suis donc dirigé tout droit vers les troupeaux de Gachoum, de Zanassou et de Der, et vers les troupeaux des Oueds. J'ai donné des ordres impératifs. Je ne reste pas sans rien faire. Naguère, à Marie, voici le propos que j'ai tenu à Monseigneur, disant « Ton troupeau, Naoum, est dans la crainte. Vers quel côté dois-je aller ? Je ne reste pas sans rien faire et je ne cesse de t'envoyer des messagers. » Autre chose, au sujet de l'Eshnounéen précédemment, j'ai tenu ces propos disant « Maintenant, l'Eshnounéen a pris Ekallatoum, Achour ainsi que Rapikoum. C'est toi désormais son objectif. Voilà les propos que j'ai tenus à Monseigneur. » Et vous voyez ici cette expression « ton Naoum est dans la crainte ». Le terme ne peut pas être décrit mécaniquement par steppe ou par troupeau. Ici, il est nettement question de tout le groupe formé par les pasteurs qui accompagnent les bêtes à la pâture. Et je terminerai par la question de l'épopée de Zimrilim. Jean-Marie Durand, après avoir rejoint les trois fragments qui permettent de reconstituer le texte de ce qu'il a appelé l'épopée de Zimrilim, en a donné de nombreuses citations au fil des années, et le texte a finalement été édité par Michaël Guichard en 2014. Une traduction anglaise en a été donnée par Adam Milio en 2017. Le texte a été réédité sous forme électronique sur le site SIL en 2014. Il a fait l'objet d'un master à l'Université Charles de Prague en 2022, l'édition de František Valek ayant aussitôt été mise en ligne par lui-même sur le site, NIR, Near Eastern Royal Epics, qui appartient au consortium ORAC, et c'est, à vrai dire, pour l'instant, le seul texte qui s'y trouve, le site étant figé depuis. Et finalement, il y a Archipov a publié en 2023 des notes sur quelques passages en marge de la traduction en russe qu'il préparait et qui est parue en 2023 également. Alors, quelques mots pour définir le genre littéraire de cette œuvre. A-t-on affaire à une courte épopée incluant des dialogues ou est-ce un long hymne royal ? Nathan Wasserman a souligné que ce texte n'était pas le seul à poser ce type de problème et il a par ailleurs proposé une idée originale. Pour lui, on peut identifier l'auteur de l'épopée et il ne s'agirait de personne d'autre que notre Ashmat. Son argument principal, c'est qu'en dehors de Zimrilim, Ashmat est la seule personne à être nommée. Et le passage crucial se trouve dans la deuxième colonne, à partir des lignes 28 et suivantes. Le taureau des rois, le juste, parce qu'il voulait atteindre son but, Zimrilim, le juste, parce qu'il voulait atteindre son but, passa alors un ordre à son ministre et commanda au cher. Qu'on fasse s'approcher mes guerriers, les Bédouins, que les pâtres se présentent devant ma personne. Avec la troupe des conscrits, les habitants des bords de l'Euphrate, moi, j'agirai assurément selon vos conseils. Ayant écouté cette parole de lui, Ashmat, le chef de pâture, s'adressa à lui. « Pourquoi crains-tu le Soubaréen ? Je t'assure que jamais le feu de ton combat n'a pu être détourné. Ô Zimrilim, qu'on voit ta vaillance, que l'humanité célèbre ton nom éternellement. » Le roi se réjouit des paroles du chef de pâture, son serviteur. J'avoue ne pas être entièrement convaincu par le raisonnement de Nathan Wasserman. Il souligne, je cite, « le message politique sans équivoque selon lequel le roi n'est que le primus inter pares, le premier parmi les égaux, qui dépend entièrement de la bonne volonté de l'élite tribale. » Mais le passage qu'il cite, à l'appui de sa thèse que nous venons de lire, ne dit pas cela. Il montre Zimrilim faire la balance égale entre les deux composantes de son royaume. Il mentionne les Bédouins, certes, mais aussi les sédentaires des bords de l'Euphrate. Et il évoque son ministre Choukalloum avant le chef de pâture, le Merhoum. Il demeure néanmoins remarquable de voir Ashmat cité par son nom dans ce texte et être le seul dignitaire du royaume à l'être, ce qui montre son importance. La correspondance d'Ashmat offre encore d'autres éléments, mais j'atteins la moitié de notre cours et donc il faut passer au deuxième portrait. Je voudrais simplement indiquer que Ashmat a eu comme successeur Ibal-El. Une vingtaine de lettres de ce Merhoum a été publiée, mais il reste encore de nombreux inédits. Et puis, parallèlement à Ibal-El, il y a eu un deuxième Merhoum qui s'appelait Ibal-Piel et que nous connaissons bien puisque nous en avons parlé la semaine dernière. Alors la coïncidence est très fâcheuse parce que lorsque le début d'une lettre est cassé, eh bien on ne peut pas toujours savoir si c'est Ibal-El ou Ibal-Piel. Et ce qui est sûr, c'est qu'on doit distinguer les deux et nous avons vu la semaine dernière comment le Merhoum Ibal-Piel a été choisi par Zimrilim pour être à la tête des troupes qu'il envoya aider Hammurabi de Babylone lutter contre les Élamites. Et pour lui aussi, de nombreuses lettres sont encore inédites. Vous voyez que la recherche sur les chefs de pâture simalites est loin d'être épuisée. Mais on va passer maintenant à un dossier bien différent, celui de Hamish Tamar, qui était un roi yaminite. Il était plus précisément roi des Ouprapéens et sa capitale se situait à Samanum. Samanum était déjà le centre de la tribu yaminite des Ouprapéens à l'époque de Yardounlim, comme l'indique l'inscription des briques du temple de Shamash. Et après la deuxième révolte des yaminites, sous Zimrilim, la ville a été intégrée au district de Terka. Samanum était situé à une journée de marche de Dour Yardounlim, que l'on situe dans la région de Derezor, donc par ici. Et deux localisations ont été proposées successivement par Jean-Marie Durand, d'abord dans la région de Meyadine, et puis, un peu plus tard, il a préféré une localisation plus en amont, à Tel Morassan. C'est la première hypothèse qui a été retenue dans MTT 1.1, et pour Tel Morassan, une identification avec Zibnatum a été préférée. La correspondance de Hamish Tamar a été publiée ou republiée par Jean-Marie Durand dans le chapitre 6.2 de son tout récent livre ARM 35. Elle comprend au total 31 lettres. Et une bonne partie d'entre elles concerne un autre roi yaminite contemporain qui s'appelait Yasmaradou. Attention, c'est l'homonyme du Yasmaradou, fils de Samsi-Adou, qui a été roi de Marie avant Zimrilim. Notre Yasmaradou est décrit par la légende de son sceau comme Yasmaradou, fils de Alpan, roi de Yarir. Donc il était à la tête d'une des cinq tribus yaminites, celle des Yariréens. Et un chapitre entier lui a également été consacré dans ARM 35. Avec une correspondance qui ne comporte que 11 lettres, mais en réalité, c'est surtout dans les lettres d'autres chefs nomades que nous en apprenons le plus sur son compte, et notamment dans les lettres de Hamish Tamar. Et donc, notre portrait de Ramish Tamar Louprapéen dessinera également celui de Yasmaradou, le Yarichéen. Vous en aurez deux pour le prix d'un. Je commencerai par un point de religion. Une découverte très importante avait été faite par Jean-Marie Durand dès le milieu des années 1980, l'importance des représentations aniconiques de divinités dans le royaume de Marie sous forme de pierres que l'on peut désigner comme des bétiles. Ça a fait l'objet de sa communication au Mélange Biro en 1985. Il a consacré un livre entier à cette question en 2005 et il y est revenu dernièrement dans une étude parue en 2019. Et un des textes les plus extraordinaires sur ce sujet, c'est précisément une lettre de notre Ramish Tamar. Il commence par évoquer la commande royale, l'envoi d'une grosse pierre pour en faire un bétil. Ramish Tamar énumère ensuite tous les outils dont vont avoir besoin les spécialistes désignés comme des kaparoum, et on voit ici un vocabulaire technique parfois très difficile à interpréter. Il s'agit à la fois de pouvoir découper la pierre, puis de la transporter. Ramish Tamar évoque ensuite le manque de personnel pour le transport de la pierre jusqu'au fleuve, et puis ensuite on doit utiliser des bateaux. Et la lettre s'achève par un avertissement. Il est possible que l'on ne puisse extraire une pierre aussi longue et large que celle dont l'extraction a été commandée par le roi. Et là, Ramish Tamar indique qu'il existe un plan B avec une pierre de plus petite taille, mais néanmoins conséquente. Il faut ici dire un mot du problème des mesures de longueur. Il y a eu des débats. La coudée babylonienne fait 50 cm, mais on s'est rendu compte que dans les textes de Marie, ça faisait beaucoup trop. Et Bertrand Laffont avait proposé une coudée de 20 cm, mais il y a des endroits où c'est pas assez. Et finalement, Grégory Chambon, avec d'assez bons arguments, a proposé que la coudée de Marie fasse 32 cm. Et donc, si l'on prend cet équivalent, eh bien, le bétil qui est mentionné ici ferait 12 mètres de haut, ce qui est déjà énorme, mais 20 mètres serait vraiment excessif. Alors, on ne sait pas exactement où cette pierre devait être extraite, mais on voit qu'elle devait être allée jusqu'à Ganibatoum, qui était le port de Douryardoulim sur l'Euphrate. Et donc, on se situe sur le rebord oriental du plateau qui culmine plus à l'ouest avec le Djebel Bichri. Et cette zone faisait partie du terroir parcouru par les Yaménites lorsqu'ils allaient de la vallée de l'Euphrate vers l'ouest. Et c'est donc en raison de sa connaissance des lieux que Ramish Tamar reçut une telle mission de la part de Zimrilim. Il existe une autre lettre de Ramish Tamar qui est célèbre dans les annales de la syriologie et qui a trait à l'invasion élamite. « Dis à mon Seigneur, ainsi parle Ramish Tamar, ton serviteur. J'ai pris connaissance de la tablette que tu m'as fait envoyer. Mon Seigneur m'a écrit au sujet de l'armée, elle est tout entière assemblée. Mon Seigneur m'a envoyé une très longue lettre. Puisse Dieu ne pas amener le méchant ennemi au bord de l'Euphrate. Puisse ton Dieu, ainsi que Dagan, maître du pays, briser l'arme des Élamites. S'ils arrivent jusqu'au bord de l'Euphrate, ne se distingueront-ils pas comme les papillons de la berge, qui est l'un de couleur claire et l'autre de couleur sombre? Certes, on dit telle ville est simalite et telle est yaminite, mais ne sont-elles pas comme le cours d'une rivière qui s'égalise, en se rencontrant, d'amont en aval? Pourquoi donc mon Seigneur m'a-t-il envoyé cette lettre? Il ne faut pas que mon Seigneur s'irrite contre moi parce que je ne suis pas encore arrivé chez lui. Mon Seigneur sait que les chers Sougagoum et les Bédouins se trouvent avec moi à Samanoum. C'est parce que depuis longtemps, ils ne s'étaient pas rencontrés avec leurs frères habitants de la ville qu'ils ont passé plusieurs jours sans bouger. Que mon Seigneur ne s'irrite pas contre moi du fait que je réponde d'eux, j'arriverai chez mon Seigneur le lendemain du jour où j'envoie cette tablette. » Alors cette lettre a donné lieu à de nombreux débats. À mes yeux, certains sont importants, mais d'autres moins. Première question, il s'agit de savoir si cette lettre contient ou non une longue citation de la lettre de Zimrilim à laquelle Hamish Tamar fait allusion par deux fois dans sa lettre. Ce serait la partie en rouge sur l'écran, mais Jean-Marie Durand a donné de bonnes raisons pour penser que tout ce passage exprime bien le point de vue de Hamish Tamar. Ce n'est pas un discours de Zimrilim. Par ailleurs, ce passage contient une comparaison entre les Élamites et les habitants des bords de l'Euphrate, c'est-à-dire du royaume de Marie. La question, c'est de savoir si le mot rimatum décrit ou non de vrais insectes au bord du fleuve. C'est ce qu'a pensé Jean-Marie Durand. Il a simplement changé d'avis sur la nature de ces insectes. Il avait d'abord pensé à des fourmis, ensuite il a pensé à des papillons, et sur le contraste de couleurs. Mais d'autres assyriologues ont souligné que le terme « goudeux » peut désigner non seulement la rive d'un cours d'eau, mais aussi un collier. Et « rimmatum » pourrait alors désigner des insectes style papillon, des insectes ailés, dont on sait qu'ils pouvaient servir d'ornement dans des colliers. Et la comparaison, à ce moment-là, décrirait l'alternance entre des pierres sombres et des pierres claires, comme il arrive qu'on en rencontre dans certains bijoux. Mais je dirais, peu importe. Ce qui compte dans ce passage, c'est qu'on parle ici d'un contraste radical, blanc et noir, entre les envahisseurs élamites, d'un côté, et la population locale, de l'autre. Les élamites sont vus ici par Hamish Tamar comme radicalement allogènes. Et le point le plus important qu'avait souligné Jean-Marie Durand dès sa publication de la lettre en 1990, c'est que le sentiment de différence entre yaminites et simalites s'efface devant l'altérité radicale que constituent les élamites. Et c'est ainsi qu'il a compris l'allusion au cours d'eau, je cite son commentaire, « La très belle image qu'emploie le chef nomade est celle du flot d'Amon qui vient avec impétuosité se fondre dans les eaux d'aval et qui symbolise effectivement les tribus yaminites arrivant depuis l'amont de la passe de Halébié vers les pâtures du royaume de Marie. » Reste la question du retard mis à rejoindre Zimrilim, Hamish Tamar explique que les pasteurs nomades ont retrouvé les gens de leur clan qui habitent en permanence dans la vallée de l'Euphrate, mais que tous vont rejoindre le roi de Marie pour partir en campagne. Et donc là, on a une bonne vision sur la division de ces tribus entre des gens qui se sont sédentarisés et d'autres qui nomadisent. Et ceci me conduit à vous parler d'un autre document extraordinaire que Jean-Marie Durand avait donné à publier à Pierre Marello dans le premier volume « De Florilegium Marianum », dont il a repris la traduction dans un volume de l'Apo, et j'avoue ne pas comprendre pourquoi il n'a pas réédité ce texte avec le reste de la correspondance de Hamish Tamar dans ARM 35. C'est une lettre fort longue, mais elle mérite d'être citée en entier, et donc je vais entrecouper sa lecture avec des commentaires au fur et à mesure. « Dis à Yasmaradou, ainsi parle Hamish Tamar, ton frère. » Alors je m'interromps tout de suite parce que vous voyez que j'ai gardé les crochets qui indiquent les parties cassées de la tablette que vous voyez sur la photo. Et vous constatez que l'adresse est extrêmement mal conservée. Le nom du destinataire a complètement disparu et du nom de l'expéditeur, il ne reste que le premier signe. Mais la suite enlève tout doute au sujet de leur identité. Et donc je reprends la lecture du document. « Voici, je le constate, vous, ce que mes frères et moi-même disons, vous ne l'écoutez pas. On dirait que c'est la haine qui me fait parler, alors que moi, je parle avec sincérité. C'est vous qui dites « Hamish Tamar nous hait fortement pour nous dire de telles choses. » Voilà une entrée en matière pas très diplomatique. Mais vous allez voir, le reste est pire. « Avant mon départ, j'ai parlé en ces termes. Tu dois, donc, discours qui s'adresse à ce Yasmaradou, le roi des Yariréens. « Tu dois venir avec moi. Zimri-Lim a décidé de faire route. Et toi, tu envisages de manger, de boire et de dormir, mais tu n'envisages pas de faire route avec moi. Rester inactif et couché ne te fait pas rougir. Moi, je te jure que je ne suis jamais resté toute une journée sans bouger à la maison. Jusqu'à ce que je sorte à l'extérieur pour m'aérer, j'ai un sentiment d'étouffement. » Il est tout à fait exceptionnel de trouver l'expression écrite d'un tel sentiment par un nomade. Et Ramish Tamar, clairement, reproche à Yasmaradou de s'être complètement sédentarisé alors que lui-même continue à aimer la vie libre au grand air. Il continue. « Tu places ta confiance là où il ne faut pas, disant « J'ai donné de l'argent à ma tribu ». Qu'est-ce que c'est que cet argent à toi que tu as donné ? Cet argent à toi que tu as donné, moi, je sais tout ce qu'il en est. Hier, ta tribu au complet s'est réunie à Hen. Celui qui t'aime disait « Écris-lui de venir », et celui qui ne t'aime pas, ce n'est pas la peine qu'il vienne. Or, si je n'étais pas venu en personne, amis et ennemis ne formeraient-ils pas qu'un ? Donc, on a ici plusieurs thématiques. Celui de la corruption des valeurs traditionnelles par l'argent. Et puis, par ailleurs, vous voyez ce rassemblement de toute la tribu à Hen, qui est à noter. C'est en effet un centre fréquent de réunion des Yaminites dans la vallée du Balir. Jean-Marie Durand a traduit au camp, parce qu'il refuse de considérer Hen comme un lieu précis, de même que Mahanoum, comme nous l'avons vu plus haut. Pour plus de détails, je vous renvoie à MTT. Mais Ramish Tamar ne s'arrête pas là et il poursuit ses invectives. « Dis-moi pourquoi j'aurais besoin de te calomnier. Peut-être que jamais vent chaud ou froid n'a fouetté ton visage. Tu es indigne de ta race. Là précisément où père et mère ont contemplé tes traits après que tu es tombé du sexe de ta mère, tu ne fréquentes que sexe de femme. » Tu n'as pas la moindre autre expérience. Au contraire, regarde-moi. Jusqu'à présent, j'ai failli périr et je me suis sauvé de la mort. Au milieu de la ville d'Aruna, à 10 reprises, j'ai réussi à me sortir d'une émeute. Pourquoi maintenant ne pas me tenir pour un doumouzi ? Au compute de l'année, on le tue. À chaque il revient au temple d'Anunitum. Ramish Tamar fait ici allusion au mythe de Doumouzi, le berger, le dieu berger qui passait la moitié de l'année dans le monde infernal avant d'en ressortir chaque printemps. Vous pourrez lire bientôt à ce sujet la communication d'Antoine Jacquet dans les actes du colloque de Marimont de décembre 2023 et le que sais-je de Nello Ziegler sur les 100 légendes du monde mésopotamien. Il s'agit d'un passage qui est tout à fait remarquable car il montre pour une fois de façon sûre que ce qui est considéré par nous comme un des grands mythes du Proche-Orient ancien était bel et bien connu de tous et pouvait faire référence dans un contexte de ce genre. Et on est étonné évidemment de voir le chef nomade qui ose se comparer à ce dieu qui ne meurt jamais. Et il poursuit. « Moi-même, voici comment j'ai toujours procédé. Sur le grain que j'ai fait, je n'ai pas fait de réserve, mais, puis là il y a une cassure, je me trouve arrivé chez les Ouprapéens et les autres Yaminites. Voici ce que tu dis. Yensib Dagan ira avec toi comme mon représentant personnel. Quand Yensib Dagan est venu avec moi, c'était déjà un vieillard. Et maintenant, il traverserait les zones de pâture et il effectuerait un travail quelconque pour toi. Alors on connaît ce Yensib Dagan, et donc on voit que Yasmaradou ne se rend pas en personne au rassemblement de tous les Yaminites, mais il délègue quelqu'un, et Ramish Tamar estime ce personnage trop âgé pour jouer un tel rôle. Et il continue. « Et quant à ce que tu dis sans cesse, j'ai donné de l'argent. Moi, j'ai donné en abondance de l'argent et de la farine. » Puis ensuite, il y a un passage lacunaire. « Maintenant, écoute ma présente tablette. Si le roi est en retard pour partir en expédition, argent, farine et tout ce que tu possèdes, prends-le, je t'en prie, et étant donné que moi-même, présentement, je me trouve ici, rejoins-moi chez moi. » Donc c'est seulement la fin de la lettre qui permet d'en comprendre la portée. Il est question d'un rassemblement en vue d'une expédition militaire. à cause de ARM 3548, l'histoire des insectes blancs et noirs, on avait cru que cette campagne se situait dans le cadre de la lutte contre les Élamites en Babylonie. Mais en préparant le cours d'aujourd'hui, je me suis tout à coup demandé s'il ne s'agissait pas en fait d'une autre mobilisation qui devait conduire Zimri-Lim et ses armées jusqu'à Ougarit, juste quelques mois auparavant. Et il me semble qu'on doit du coup comprendre dans ce contexte l'allusion qu'on trouve dans une lettre postérieure qui est adressée par notre Rami Shtamar à Ibal El, donc qui lui était le Merhoum des Simalites. Donc on a là une lettre échangée entre un roi yaménite et un chef de pâture simalite. Et qu'est-ce qu'écrit Rami Shtamar ? Dit à Ibal El, ainsi parle Rami Shtamar, j'ai écouté la tablette que tu m'as fait porter. À quoi rime ce message insistant que tu m'envoies sans cesse ? Les Ouprapéens ne cessent de voler les Simalites. Que je sois maudit si j'ai oublié nos anons qu'à Ougarit nous avons tués en présence d'Adou d'Alep. Il est donc ici question d'une alliance conclue à Ougarit entre le chef de pâture simalite Ibal El et le roi ouprapéen Rami Shtamar, qui s'était accompagné du rituel traditionnel. Et donc, ça signifie que tous les deux étaient venus avec Zimri-Lim et ses troupes au moment où le siège a été mis à Ougarit. Je terminerai par un dernier dossier qui met en scène à la fois Yasmaradou, roi des Yarichéens, traité de mollasson, et même pire, par Rami Shtamar. Eh bien, on va découvrir que c'était aussi un piètre gestionnaire. On a pas moins de 3 lettres de Rami Shtamar à Zimri-Lim qui concernent ce sujet parce que Zimri-Lim avait prêté de l'argent à notre Yasmaradou. Et donc, Rami Shtamar raconte dans une première lettre comment Yasmaradou est venu le trouver en lui avouant son désarroi. On possède par ailleurs 2 créances de Zimri-Lim à son débit. Au sujet de la tablette, à propos de l'argent qui est à la charge de Yasmaradou, sujet d'un message précédent de Monseigneur, la veille, j'étais allé à Iloum Moulouk et j'y séjournais pour le 2e jour. Alors Yasmaradou est venu à moi et il s'est assis en face de moi. Alors, lui-même, il a abordé le sujet en ces termes, disant « Que faire ? L'argent que j'ai reçu du roi, ses jours s'allongent désormais. » Ça signifie qu'on est au-delà de l'échéance prévue initialement. Ayant vu, moi, qu'il affrontait lui-même le sujet, j'ai dit « Mais toi-même, jusque à quand garderas-tu cet argent ? Pourquoi ne fais-tu pas en sorte de le rembourser ? Attends-tu qu'on te saisisse ? Pourquoi n'y a-t-il pas en toi de décision concernant cette affaire ? Si cet argent avait été argent de marchand ou argent de quiconque, cet argent, un talent n'y suffirait pas. Moi, c'est ce que j'ai dit entre plusieurs choses, paroles de bon sens de mon cru, et ce jour-là, il ne m'a rien répondu. En outre, le lendemain, il ne m'a rien répondu non plus. Donc vous voyez qu'il s'agit d'une somme considérable, hein, un talent d'argent, c'est 30 kilos. Et Rami Shtamar conseille à Yasmaradou de rembourser. 3 jours plus tard, Yasmaradou revint en déclarant qu'il ne pouvait pas apporter plus de 5 mines, c'est-à-dire moins de 10% de sa dette. Le 3e jour, il a dit « Tu m'as bien conseillé. Il me faut réunir X mines d'argent et les apporter. » J'ai dit « Ce sera pour toi une grande honte. Ces X mines d'argent, les prud'hommes ne les accepteront pas de toi. Ce sera une honte pour toi que d'apporter cet argent. Jamais on ne l'acceptera de toi. » Il a dit « Vrai, je n'ai pas l'argent. Que faire donc ?» J'ai dit « Puisque tu n'as pas l'argent à donner, va, rassemble les chers et les anciens de ton pays et tiens-leur ce discours. » Donc, ce qui suit, c'est le discours que Rami Shtamar dicte, souffle à notre pauvre Yasmaradou. L'autre année, Moutapour, le chef de pâture, et les chers Sougagoum venus à Alep, et m'ayant vu chez moi, m'ont entrepris à ce propos disant « Pourquoi donc es-tu ici inactif ? Prends part, prends notre tête que nous allions en aval chez Zimrilim. » Voilà ce qu'ils m'ont dit, et allant en aval chez Monseigneur Zimrilim, je lui ai fait acte d'obédience. Dans ce déplacement en aval que j'ai entrepris, ce n'est pas dans les monceaux d'or ou d'argent de Yatarum et d'Alpan que je suis entré. Je n'ai trouvé ni domesticité, ni bovin, ni ovin, ni grain, je n'ai rien trouvé. Je suis entré dans une maison vide, dans une ruine vide. J'ai vu qu'il n'y avait plus rien à donner aux gens du Yarir. J'ai reçu de l'argent du roi, les fameuses créances que nous avons évoquées, et je l'ai donné aux gens du Yarir. Le Yarir a pris mon argent à moi. Or, ils sont allés installer un autre Madaroum, Itzikatar. En outre, l'argent que j'avais reçu du roi est devenu une grosse somme. Or, maintenant, il n'y a rien à rendre, c'est-à-dire qui permette de rembourser. Donc, Khamish Tamar conseille à Yasmaradou de dire qu'au moment où il est monté sur le trône, il n'est entré en possession d'aucun bien. Nous avons vu qu'Alpan était son père, et donc on peut supposer que Yatarum était son grand-père. Et donc, montant sur le trône, eh bien, Yasmaradou a dû emprunter de l'argent à Zimrilim, et c'était d'autant plus nécessaire qu'à ce moment-là, il était en rivalité avec un certain Itzikatar qui lui disputait la royauté sur les Yariréas. Et Khamish Tamar continue. « Voilà qu'il te faut rapporter devant les chers et les anciens de ton pays. Il se peut que tel ou tel qui cultive un champ à toi fasse un apport et t'aide d'une ou deux mines d'argent. Alors, ayant collecté de l'argent, ajoute-le à celui qui est en ta possession pour qu'on ne fasse pas d'ennui. Sinon, si de l'argent n'est pas disponible, donne de la terre. » Puis ensuite, il y a un passage un peu cassé. Alors il m'a répondu ceci. « Tu portes comme tu sais, je ne donnerai pas de champ. Pour ce qui est de l'argent, je collecterai 5 ou 6 mines, et alors je les donnerai, mais je ne donnerai pas de champ. » Voilà ce qu'il m'a répondu. Or, avant cela, lorsque nous étions à Marie, je lui avais parlé au sujet de cet argent et il m'avait répondu ceci, « Il y a 3 mines d'argent, je les donnerai. » J'avais dit, « Ne les donne pas, est-ce donc peu de choses que tu te ridiculises ?» Et entre-temps, Khamish Tamar a reçu une lettre de Zimrilim qui lui demandait de conseiller au débiteur de rembourser en argent ou bien en abandonnant la propriété de champs. Et Khamish Tamar dut répondre au roi que Yasmaradou avait l'intention de rembourser en tout et pour tout 5 mines d'argent et refusait de céder des champs. Et c'est également l'information qui a été transmise à Zimrilim par un autre roi yaminite, Yarimlim. L'affaire est donc manifestement d'importance. Le roi de Marie a mobilisé 2 rois yaminites pour faire pression sur leur homologue. On ne sait pas quand l'affaire s'est terminée, mais elle montre de façon très intéressante la réticence extrême des débiteurs à aliéner leur patrimoine foncier pour rembourser une dette, et on parle dans ce cas de vente forcée. Alors ici, bien sûr, il s'agit d'un roi, mais il y a tout lieu de penser que l'attachement à la terre était au moins aussi fort chez de simples sujets. Et par ailleurs, vous voyez ici que nos catégories ne sont pas toujours adéquates. Parce que Yasmaradou est roi du Yarir, une des 5 tribus yaminites, les historiens ont tendance à le ranger de nos jours dans la catégorie des nomades. Or, l'indication tribale ne signifie pas forcément que la personne ne s'est pas sédentarisée, et on voit ici que c'est le cas, et on l'a vu déjà antérieurement. Et cet attachement de Yasmaradou à la terre est remarquable. Malgré sa récente sédentarisation, ou peut-être à cause d'elle, il n'envisage pas de vendre ses propriétés pour rembourser sa dette. On dit habituellement qu'on ne connaît les nomades qu'à travers le prisme déformant des écrits des sédentaires, et c'est souvent vrai. Mais nous avons pu voir aujourd'hui que tel n'est pas le cas dans le royaume de Marie. Les chefs nomades ont en effet laissé une abondante correspondance qui permet de dresser le portrait de certains d'entre eux avec une précision inattendue. La semaine prochaine, nous dresserons le portrait de Zimrilim à nouveau et ainsi se clôturera notre galerie. Je vous remercie de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.